Bienvenue dans Mon Thorax à l'Index, un podcast qui donne la parole aux patients concernés par les déformations de la paroi antérieure du thorax. Pectus excavatum, carinatum, arquatum, symétrique ou asymétrique, avec ou sans retentissement sur le souffle ou plutôt la fonction cardiaque, la jungle des déformations de la paroi antérieure du thorax mérite une exploration conjointe par les patients et le corps médical. Les témoignages recueillis lors de ces conversations permettront peut-être de vous éclairer sur ce sujet, et particulièrement sur le ressenti des premiers concernés, les patients. Bonne écoute.
Bonjour, je m'appelle Xavier et j'ai eu un pectus excavatum.
Xavier, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, intimement, pectus excavatum ?
Pour moi, le pectus excavatum, je l'associerais à un trou dans la cage thoracique. Un trou, une sorte de petite cavité, on va dire, dont on prend conscience assez tôt, finalement, à l'enfance, dans un environnement plutôt scolaire. Quand on commence à côtoyer d'autres enfants, d'autres garçons, puisque ça vient souvent pendant les cours de sport. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été ma première prise de conscience. Voilà. Moi, je suis né avec ça. C'est une pathologie qu'on a à la naissance, qui va se développer avant les 10 ans. C'est quelque chose qu'on a toujours eu, en fait. On naît avec ça. Comme on peut naître... Alors, j'irais... pas parler maintenant avec le recul que j'ai, je parlerai pas de handicap, même si psychologiquement ça peut avoir une atteinte qui est quand même, on va dire, plus ou moins forte selon les personnes, mais en tout cas on la découvre avec les autres.
Tu dis on la découvre avec les autres, tu vas nous raconter le moment où c'est arrivé,
bien sûr.
Mais avant cette découverte, personne t'en a parlé, ta maman elle a pas dit tiens,
jamais, absolument
mais
pas.
Mais elle l'avait vu?
Alors,
est-ce que tu en as parlé après avec elle ?
Effectivement, j'en ai parlé avec elle, puisque les parents sont les... Quand on a la chance d'avoir ses parents, c'est la structure familiale qu'on va solliciter en premier, pour avoir une confirmation, pour avoir un avis extérieur. Donc quand on les sollicite, et c'est un petit peu le problème de cette pathologie ou de cette différence, le fait que le regard des autres peut être très différent selon les individus. Donc c'est assez perturbant puisque on a des visions qui peuvent être totalement différentes. Ça va de ah mais non mais c'est rien du tout. Je comprends pas de quoi tu parles.
C'est-à-dire ça c'est tes
que
parents.
Ça c'est mes parents, c'est ma mère notamment. Et encore aujourd'hui, je crois en sa sincérité, c'est-à-dire qu'elle l'était au moment où elle le pensait.
Ouais.
Au-delà de sa mère, on croise beaucoup de gens tout au long de son adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Certaines vont jamais nous faire la réflexion. Et en revanche, on en a d'autres, peut-être effectivement moins proches, qui vont être interloqués, qui vont nous poser cette question-là, qui vont nous dire « Tiens, c'est bizarre, t'as un trou dans le sternum. » J'ai eu la chance de pas avoir de moqueries très profondes,
ouais,
très insistantes. Je sais, par contre, que ça peut soulever des moqueries, des choses un peu comme tout type de handicap. Voilà, c'est-à-dire que le handicap à l'enfance, c'est quelque chose qui, s'il n'est pas encadré psychologiquement pour la j'allais dire la victime du handicap, bon, c'est pas vraiment le bon terme, mais si c'est pas encadré pour un enfant, si c'est pas contrôlé, il y a des enfants qui se font harceler pour moins que ça. Donc si c'est pas contrôlé, si c'est pas un petit peu traité avec empathie, ça peut dégénérer en des moqueries plutôt sévères qui peuvent être très perturbantes, et là j'insiste là-dessus, très perturbantes pour un adolescent, d'ailleurs pour un adolescent qui se construit et qui va construire aussi ses relations amoureuses.
Amoureuses, bah on va y revenir.
D'accord.
Mais revenons à ce moment, ce déclic que tu as eu. Est-ce que justement ça a été un déclic du jour au lendemain, ou est-ce qu'au fur et à mesure que tu allais, donc je suppose que si tu avais 8-9 ans sûrement, donc en CM1, CM2,
ouais,
ça s'est fait sur plusieurs semaines peut-être ?
Alors oui, ça s'est fait, alors pas sur plusieurs semaines, mais ça se fait avec le nombre d'individus qui vont t'interpeller par rapport à ça. C'est-à-dire que au début, c'est une personne. Une nouvelle fois, il faut se replacer dans le contexte de l'enfant qui n'est pas encore développé psychologiquement et qui est en apprentissage de la vie.
Tu te souviens de cette personne ?
Pas vraiment, pas plus que ça. Je me rappelle, en revanche, des mots. Ah, t'as un trou, c'est bizarre.
Et ça t'a choqué ?
Quand on entend ça, on se pose la question, on dit mais qu'est-ce que j'ai ? Voilà. C'est là qu'on commence à prendre conscience.
On va se voir dans la glace à ce moment-là ?
On va se regarder un petit peu dans la glace, effectivement. On va commencer à comparer. On va, au niveau qu'on a quand on a 8, 9, 10 ans, peut-être essayer de chercher des informations. Alors, moi, je suis né en 84, donc Internet, ça n'existait pas. On ne trouvait pas l'information. D'ailleurs, ça, c'est un point qui est très important, qui change beaucoup de choses aujourd'hui, d'ailleurs. Mais à l'époque, il n'y avait pas ces informations. Je ne pouvais pas comparer. Je ne pouvais pas savoir si j'étais seul au monde. Je pouvais pas non plus me dire que j'avais un vrai handicap. C'était des réflexions, mais qui n'étaient pas toujours très insistantes. Mais par contre, quand on a plusieurs personnes à la suite, de 8 à 14, 15, 16 ans et plus, qui vont faire cette même réflexion avec ce même vocabulaire, ce même étonnement, effectivement, là, on se dit oui, il y a vraiment une différence.
Ouais.
C'est avec le nombre de personnes qui vont faire la réflexion. Quand c'est une, ça va. Quand c'est 10, 15 et quand on sent qu'il commence à y avoir une certaine forme de gêne, là on prend conscience effectivement des choses.
À ce moment-là, quand on prend conscience des choses et que tu nous as dit 8, 12, 14, mm-hmm. ça veut dire que toutes ces années, tu as vécu avec
oui.
comment ?
Alors comment j'ai vécu avec ? J'ai vécu avec. j'ai vécu avec, c'est-à-dire qu'on fait avec, comme on ferait avec un vrai handicap. Alors, je ne sais pas si on peut parler de vrai handicap ou pas, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance juridique de ce problème. Alors, voilà, il y a une gêne qui s'installe. Donc, vivre avec, ça veut dire essayer de ne pas se montrer torse nu.
Se cacher.
C'est se cacher. Évidemment, le grand classique, là, tout le monde, enfin, tous mes collègues vont se reconnaître là-dedans, c'est la plage.
Toi, qu'est-ce que tu faisais pour...
Alors, qu'est-ce que je faisais à la plage ? Qu'est-ce que je faisais ? Je gardais mon t-shirt.
Tu t'es pas enfermé sur toi-même, quand même ?
Le ressenti qu'on peut avoir si on est dans une mauvaise phase de sa vie, si on n'arrive pas à se construire en parallèle, notamment après l'adolescence, par rapport... Moi, je prends l'exemple de la vie amoureuse, mais c'est beaucoup ça, puisque c'est un moment intime.
Bah ça, c'est... Voilà, je voulais en arriver là, ouais. Comment tu les as vécues, ces relations ?
Alors, comment j'ai... Moi, j'ai eu cette réflexion-là très rapidement au début. C'est la première fois qu'on va se dévoiler. Effectivement, il y a peut-être un effet de surprise. Mais j'en ai jamais parlé avant. Voilà.
C'est-à-dire que tu savais que la jeune fille l'avait sûrement vue ou touchée, mais tu vous en avais pas parlé.
Non, moi, en tout cas, j'ai jamais amené le sujet sur la table. Enfin, d'ailleurs, je le conseillerais pas. Pour ceux qui m'entendraient, je le conseillerais pas parce que ça ajoute du trouble, de l'appréhension. Et voilà, on sait ce qu'on a. Il faut aller au bout des choses. Si c'est un élément bloquant sur le moment, bah, à ce moment-là, tant pis. On n'est pas non plus dans une difformité qui est absolument exceptionnelle et qui devrait... Et j'ai eu la chance d'avoir, en tout cas, une vie sentimentale. Et ça, je le dis pour des personnes qui se disent « Ah, mais ça va me poser un gros handicap. J'arriverai pas à trouver l'amour, à m'épanouir avec une conjointe, un conjoint, peu importe. » Mais non, c'est pas, il faut pas que ça bloque. En ce qui me concerne, ça m'a pas bloqué, ça a fonctionné, pourtant j'en ai un et j'ai eu aucun problème là-dessus. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut rassurer. C'est pas évident de se lancer, mais il faut rassurer, c'est largement possible et on peut très bien vivre avec ça en ayant des relations sentimentales totalement épanouies.
On parlait tout à l'heure du côté visuel et puis je t'ai parlé du toucher. Est-ce que toi, quand tu... Parce qu'on se touche nous-mêmes, hein, quand tu mettais la main dans ce... Est-ce que tu le faisais déjà ? Et est-ce que, peut-être, je ne sais pas, à force, dans la vie, de grandir, de devenir mature, etc., Il y a eu ce moment, puisque tu t'es fait opérer,
bien
donc
sûr.
C'est qu'il y a eu un moment où tu t'es dit
tout à fait.
C'est plus possible, je peux
tout,
plus.
Tout à fait. Alors, c'est une très bonne question, le toucher, c'est une très bonne question, puisque ça, il faut avoir cette pathologie pour comprendre l'importance du toucher. Moi, je touchais jamais cet endroit-là, parce que ça me faisait pas peur, mais ça me rappelait, voilà. C'est un moment de rappel. Et toucher cet endroit-là, ça s'associe à ces petites remarques, ces petites réflexions.
Quand est-ce que tu t'es dit, ok, stop.
J'ai eu un premier déclic vers 25 ans, quand je me suis dit, tiens, bah, c'est vrai qu'avec Internet, il y a plein d'infos, donc je vais aller voir, j'ai fait une recherche là-dessus. Et en fait, donc c'est finalement très tardivement que j'ai pu mettre un nom sur cette pathologie, comprendre que j'étais pas seul et loin d'être seul. Donc ça, c'est vraiment, ça a été un déclic incroyable. Et puis surtout...
Ça t'a soulagé quelque part ?
Oui, ouais, vraiment, ça m'a soulagé. Ouais. Et donc, quand j'ai découvert ce site dédié à cette anomalie, donc il y avait un forum. Et alors là, j'ai vu plein de complaintes de personnes comme moi au même âge. Énormément.
Wow.
Des gens qui laissaient des messages en disant « j'en peux plus, j'en ai marre, je vis pas bien, j'ai des idées noires, ça m'a gâché la vie ». Et donc, voilà, d'autres personnes qui disaient « Non mais arrêtez, vous vous plaignez pour rien, moi j'ai une vie qui est heureuse, qui est épanouie, j'ai jamais eu de problème, notamment sur le plan sentimental ou quoi que ce soit. » Donc voilà, il y a un peu tous les cas de figure, mais ce que je retenais de ce forum, c'est voilà, c'est beaucoup de personnes en détresse et sans solution. Et donc, de fil en aiguille, je découvre qu'il y a des opérations qui sont très douloureuses, qui s'étendent sur du long terme, c'est-à-dire 3 ans avec un morceau de métal au niveau de la cage thoracique qui est retourné. Bref, une opération très très lourde et pas forcément avec un résultat toujours exceptionnel.
Ok.
Donc
tu t'es dit, je vais continuer à vivre avec ça, tant pis.
Ouais, je me suis dit, là, ce que je vois aujourd'hui au niveau médical, c'est non seulement pas rassurant, c'est loin de chez moi. À l'époque, c'était des centres qui étaient en Suisse, voire dans le sud de la France, mais il n'y avait rien de vraiment identifié. Enfin, j'avais rien en tout cas identifié à l'époque en Île-de-France. Je suis originaire de Paris. J'étais en période d'études également, j'avais pas d'argent. Du coup, donc c'était que des complications, et comme j'étais dans une vie plutôt stable, plutôt épanouie, hormis effectivement ce détail là qui se gérait au cas par cas, bon, je me suis dit je vais attendre un petit peu, je vais attendre, je vais pas le faire tout de suite. Et puis c'est sorti de mon esprit. C'est 10 ans plus tard seulement que l'idée est revenue.
Est-ce qu'il y a une raison ?
Alors, pas de raison particulière. J'ai plutôt eu un contexte personnel qui me laissait un petit peu plus de temps, un petit peu plus de facilité. Aussi un peu plus de moyens financiers, une mutuelle, parce que l'opération a été prise en charge par la mutuelle.
Entièrement ?
À 95%, c'est aussi un gros point positif. Et puis surtout, la connaissance, donc l'information que je n'avais pas avant, c'est-à-dire de l'Institut mutualiste Montsouris, avec le docteur Briand, qui ont fait donc une page internet dédiée au problème, dédiée à l'opération. Je suis tombé dessus en faisant des petites recherches là-dessus pour voir ce qui avait changé en 10 ans, mais j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait de bonnes installations et puis surtout une méthode. Le docteur Briand propose une méthode beaucoup plus court-termiste, c'est-à-dire que l'opération se fait et ensuite c'est terminé. On garde une petite barre pendant un an, mais qui est vraiment, pendant 6 mois peut-être, qui n'est pas gênante, qu'on vit pas comme un corps étranger, du moins c'est pas un handicap comme peut l'être l'autre méthode. Alors j'ai pas en tête les noms des deux opérations, mais en tout cas celle du docteur Briand est rassurante, plus courte, à moins d'impact physique sur le long terme.
Est-ce que pendant ces 6 mois, 1 an, tu vois, tu ne sais même plus, c'est marrant, du coup t'as oublié. Est-ce que quand on a cette barre, premièrement, est-ce que ça se voit ? Et est-ce que, du coup, on continue aussi à se cacher ? Parce qu'on a non seulement la barre, mais sûrement une cicatrice.
Une grosse cicatrice, oui, tout à fait. On continue à se cacher par nécessité. C'est-à-dire que la cicatrice, au début, est quand même assez importante. Donc, de toute façon, le soleil, c'est pas possible.
Ah,
l'extérieur,
oui.
C'est pas possible. Et puis, surtout, on continue à se cacher, alors par obligation dans le sens où on n'est pas en état de marcher, de gambader, de courir, ça il faut le dire. Après l'opération, concrètement, là, pour les personnes qui voudraient faire ça, alors bien sûr, je leur conseille de le faire sans tarder, puisque j'ai le recul pour le dire, mais elle est quand même très douloureuse. Il s'agit quand même d'une fracture contrôlée du sternum. Et aujourd'hui, je me dis, heureusement, qu'est-ce que c'était que cette idée ? Je veux dire, quand on voit le résultat et le bien-être que ça peut apporter par rapport à la situation d'avant, malgré la douleur, il faut le faire.
Tu l'as bien dit déjà tout à l'heure, le jeu en vaut la chandelle. Oui. Mais est-ce que ça peut être un petit peu dérangeant, socialement, etc.
Je pense que quand on subit un traumatisme opératoire ou un traumatisme dans sa vie... c'est à ce moment-là qu'on mesure aussi la chance qu'on a de pouvoir se lever, marcher, acheter une baguette de pain, respirer,
ces petits
détails-là, on en prend pleinement conscience. Donc ça permet aussi de réfléchir, de relativiser sur l'importance de la santé, de la vie. Donc on se rend compte de plein de choses, de petits détails. C'est une expérience de vie aussi qui est, pour moi en tout cas, qui a été marquante.
Aujourd'hui, tu te mets torse nu à la plage ?
Je me mets torse nu sans problème. Ouais.
Et j'aime ça.
Avec plaisir, et j'aime ça.
Merci beaucoup, Xavier.
Merci à toi.
C'était un épisode de Mon Thorax à l'index, le podcast qui donne la parole aux patients concernés par les déformations de la paroi antérieure du thorax. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur prise en charge médicale sur le site internet de l'Institut Mutualiste Montsouris et de son département thoracique www.imm.fr. Merci à tous, à bientôt.